À l'ouest d'Arkham, la montagne devient sauvage, avec des vallées dont nulle hache n'a jamais troublé les bois profonds. Il y a des ravins sombres et abrupts, où les arbres poussent avec des formes fantastiques, et où coulent de maigres ruisseaux qui n'ont jamais reçu un rayon de soleil. Sur les pentes plus douces, on trouve d'anciennes fermes et des cottages couverts de mousse, tassés contre la roche, comme s'il couvait à jamais les secrets de la Nouvelle-Angleterre sur le rebord des abîmes. Mais ils sont tous abandonnés maintenant, leurs larges cheminées s'effondrent, et les bardeaux des murs gonflent dangereusement sous les toits brisés. Les anciens habitants sont partis, et les étrangers n'aiment pas vivre ici. Des Canadiens français s'y sont essayés, des Italiens s'y sont essayés, et les Polonais sont venus et repartis. Ce n'est pas à cause de quelque chose qui puisse être vu ou entendu ou compris, plutôt à cause de ce qu'on imagine. Ce n'est pas un lieu favorable à l'imagination ou qui apporterait la nuit des rêves bienfaisants. C'est cela qui garde les étrangers à l'écart, parce que le vieil ami Pierce n'a jamais dit à personne ce dont il se souvient des jours étranges. Ami, dont la tête est un peu dérangée depuis des années, est le seul qui se souvient encore ou qui parle parfois des jours étranges. Et s'il l'ose, c'est parce que sa maison est assez proche de la zone des champs à découvert et des routes qui rejoignent Arkham. Il y avait une route autrefois qui traversait montagnes et vallées et passait tout droit dans le lieu de la lande foudroyée. Mais les gens cessèrent de la prendre et une nouvelle route fut tracée qui faisait un large écart par le sud. On peut retrouver les traces de l'ancienne dans la végétation qui retourne à l'état sauvage et quelques-unes de ces traces subsisteront même quand la plupart des creux seront inondés pour le nouveau barrage. Alors les bois sombres seront rasés, et la lande foudroyée sombrera loin sous les eaux bleues, dont la surface reflètera le ciel et miroitera dans le soleil. Et les secrets des jours étranges seront enfouis parmi les plus profonds secrets, avec les légendes cachées du vieil océan et tous les mystères de la terre originelle. Quand j'arrivais à ces montagnes et vallées pour surveiller le nouveau barrage, ils me dirent que le lieu était maléfique. Ils me le dirent à Arkham, mais parce que c'est une très vieille ville pleine de légendes et sorcelleries, je pensais que ce « maléfique » venait de ce que les grands-mères chuchotaient aux enfants depuis des siècles. L'appellation « lande foudroyée » me semblait très théâtrale et bizarre, et je me demandais comment cela s'était intégré au folklore d'un peuple si puritain. Puis je découvris moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de vallons et collines, et cessai de m'étonner de quoi que ce soit d'autre que son propre et ancien mystère. C'était un matin quand je le découvris, mais l'ombre ici menaçait en permanence. Les arbres grossissaient trop épaissément, et leurs troncs étaient trop larges par rapport à nos bois ordinaires de Nouvelle-Angleterre. Il y avait trop de silence dans les minces allées qui les séparaient, et le sol était trop mou et tapissé de cette mousse humide comme d'infinies années de déclin. Dans la zone découverte, principalement le long du tracé de l'ancienne route, il restait quelques petites fermes dans les collines, parfois avec tous leurs bâtiments encore debout ou juste quelques-uns, ou quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une grange. L'herbe et la bruyère dominaient, et des choses furtives et sauvages faisaient bruire les fourrés. sur toute chose restait un relent de nervosité et d'oppression, une touche d'irréalité ou de grotesque, comme si quelque vital élément de perspective ou de clair-obscur s'était détraqué. Je ne m'étonnais plus que des étrangers n'aient pu demeurer, ce n'était pas un lieu pour y dormir. C'était plutôt un paysage du peintre Salvator Rosa, beaucoup plus comme quelques bois interdits dans un conte de terreur. Mais rien n'était si affreux que la lande foudroyée. Je le sus au moment où je débouchais à l'entrée d'une large vallée, parce qu'aucun autre nom n'aurait convenu à une telle chose, ou bien toute autre chose aurait pu prendre ce nom. C'était comme si un poète avait battu cette expression, parce qu'il avait vu ce lieu particulier. Cela devait, pensais-je lorsque je le vis, être le résultat d'un incendie, mais pourquoi rien n'avait jamais repoussé sur ces 5 hectares de désolation grise qui rampait sous le ciel comme une grande tache mangée par l'acide parmi les bois et les champs. On était largement au nord de l'ancien tracé de la route, mais cela débordait aussi de l'autre côté. Je perçus une forte répugnance à en approcher, et ne l'entrepris que parce que mon métier m'y amenait et me forçait à le traverser. Il n'y avait aucune végétation de quelque sorte sur cette vaste étendue, mais rien qu'une fine poussière ou cendre grise, dont il semblait que jamais aucun vent n'avait tenté de la souffler. Les arbres alentours semblaient malades et distordus, et beaucoup de troncs morts étaient restés debout ou pourrissaient dans les fossés. Comme je traversais sans traîner, je croisais les briques et pierres écroulées d'une vieille cheminée et d'un cellier sur ma droite, et la gueule noire et bâillante d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes jouaient d'étranges tours dans le halo de la lumière du soleil. Même la longue pente sombre du bois grimpant au-delà semblait accueillante par contraste, et je ne m'étonnais plus des chuchotements épouvantés des gens d'Arkham. Il n'y avait pas d'autres maisons ou ruines à proximité. Même dans les anciens jours, le lieu avait dû être solitaire et isolé. Au crépuscule, redoutant d'avoir à retraverser cet endroit de mauvais augure, je fis le détour pour revenir à la ville par la boucle de la route contournant par le sud. Je rêvais vaguement que paraissent des nuages, comme si une étrange timidité à propos de l'immense et profond vide du ciel s'était incrustée dans mon âme. Ce soir-là, j'interrogeais quelques vieilles personnes d'Arkham sur la lande foudroyée et de ce qu'on entendait par l'expression « jours étranges » qu'on murmurait de façon si évasive. Et je ne pus cependant en obtenir nulle réponse, hors le fait que tout ce mystère était bien plus récent que ce que j'en avais supposé. Ce n'était pas du tout dû à une vieille légende, mais appartenait au temps même de ceux avec qui je parlais. C'était arrivé dans les années 1880, et une famille avait disparu ou avait été tuée. Les témoins étaient flous, et parce que tous me dirent de ne pas accorder d'attention aux histoires folles du vieil ami Pierce, je partis à sa recherche dès le lendemain matin, ayant entendu dire qu'il vivait seul dans une vieille cabane chancelante, là où les bois recommençaient à se faire si épais. Un lieu effroyablement archaïque et qui avait commencé à exhaler les miasmes et l'odeur qui traînent autour des maisons qui ont duré trop longtemps. Ce n'est qu'en frappant avec obstination que je pus réveiller le vieil homme, et quand il entrebâilla timidement la porte, je fus certain qu'il n'était pas heureux de me découvrir. Il n'était pas si faible que ce à quoi je m'attendais, mais ses yeux s'affaissaient d'une façon curieuse, et ses vêtements sans soin et sa barbe blanche lui donnaient un air très las et lugubre. J'alléguais faussement une raison professionnelle, lui parlais de ma surveillance et posais quelques questions générales sur la région. Il était beaucoup plus intelligent et bien plus éduqué que ce que j'avais été amené à penser, et avant que je m'en sois aperçu, il avait saisi bien plus du sujet que n'importe lequel des gens avec qui j'avais échangé à Arkham. Il n'était pas comme les autres ruraux que j'avais rencontrés dans les zones où seraient les réserves du barrage. il ne protestait pas, lui, à propos des kilomètres de vieilles forêts et terres arables qui seraient noyées, même si peut-être sa maison ne serait pas hors de la limite des rives du futur lac. Un soulagement, c'est tout ce qu'il montrait. Un soulagement vis-à-vis de la ruine des anciennes et sombres vallées où il avait passé toute sa vie. Elle serait mieux sous les eaux désormais, mieux sous les eaux après les jours étranges. Et après ce début, sa voix enrouée devint grave, tandis que son buste se penchait en avant et que son index droit s'agitait de façon impressionnante. C'est alors que j'appris l'histoire, et tandis que la voix se perdait, raclait, sifflait, moi je frissonnais encore et encore en dépit de la chaleur de l'été. Souvent j'avais à interrompre le conteur dans ses digressions, lui faire préciser quelques points scientifiques qu'il ne connaissait que par une mémoire évanescente, en perroquet reprenant de vieux rabâchages professoraux, ou sauter des fossés entiers là où son sens de la logique et de la continuité s'était effondré. Quand c'était le cas, je ne m'étonnais pas que son esprit se fût ébréché un peu, ou que les gens d'Arkham n'aimaient pas parler de la lande foudroyée. Je revins à mon hôtel avant que le jour tombe, ne souhaitant pas que s'éclairent au-dessus de moi les étoiles dans le vide. Et le jour suivant, je revins à Boston donner ma démission. Il ne me serait pas possible de revenir dans ce vague chaos de vieilles forêts et collines, ou me trouver à nouveau face à cette lande foudroyée toute grise, où le puits noir et profond bâillait près des briques et pierres effondrées. Le barrage serait bientôt construit, et tous ces vieux secrets seraient à l'abri pour toujours sous quelques brasses d'eau. Mais même ainsi, je ne crois pas que j'aimerais visiter de nuit ce pays, du moins quand les sinistres étoiles paraissent, et rien ne pourrait me forcer à boire de la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout avait commencé, avait dit le vieil ami, avec le météorite. Avant ce temps-là, il n'y avait plus eu nulle légende sauvage depuis les procès des sorcières, et on craignait ces bois qui filaient vers l'ouest bien moins que la petite île de la Miskatonic, où le diable tenait son tribunal sur un curieux autel de pierre plus vieux que les Indiens. Il n'y avait pas de bois hanté, et leur fantastique crépuscule n'avait jamais été terrible jusqu'à ce que viennent les jours étranges. Alors avait surgi un midi ce nuage blanc, cette chaîne d'explosion dans l'air et cette colonne de fumée venue de la vallée loin depuis les bois. Et à la nuit, tout Arkham avait entendu ce grand rocher qui tomba du ciel et se logea dans le sol près du puits de la ferme de Nahum Gardner. C'était la maison tout auprès d'où la lande foudroyée s'étendrait, la coquette et blanche maison de Nahum Gardner, entourée de son potager fertile et de ses arbres fruitiers. Nahum s'était précipité en ville pour raconter la pierre qui était tombée et avait croisé Amy Pierce en chemin. Amy avait 40 ans cette année-là, et toutes ces choses bizarres se fixèrent fortement dans son esprit. Lui et sa femme étaient partis avec 3 professeurs de l'université miskatonique qui se précipitèrent dès le matin suivant pour examiner le curieux visiteur des espaces stellaires inconnus, et s'étaient étonnés de la taille que, la veille, lui avait attribuée Nahum. « Il s'était ratatiné, » dit Nahum en montrant l'épais des blés marrons sur la terre arrachée et l'herbe carbonisée près de l'archaïque margelle circulaire du puits dans sa cour. Mais les doctes savants rétorquèrent que les pierres ne se ratatinaient pas. Sa chaleur rayonnait avec persistance, et Nahum déclara que la nuit, il brillait faiblement. Les professeurs y essayèrent leur marteau de géologue, et constatèrent qu'il était bizarrement mou. C'était, à la vérité, assez mou pour être une sorte de plastique. Et ils découpèrent, plutôt qu'ils ébréchèrent, un échantillon qu'ils souhaitaient étudier dans leur laboratoire. Ils le placèrent dans un vieux seau emprunté à la cuisine de Nahum, parce que même le petit morceau refusait de refroidir. Avant leur voyage de retour, ils s'arrêtèrent chez Amy pour un bref repos, et devinrent pensifs quand Madame Pierce remarqua que le fragment diminuait de taille et brûlait le fond du seau. Vraiment, il était petit, mais peut-être en avait-il détaché moins qu'il ne l'avait cru. Le jour suivant, tout cela eut lieu en juin 1882, les professeurs revinrent et tout excités. Quand ils s'arrêtèrent chez Amy, ils lui dirent quel étrange comportement avait eu l'échantillon et comment il s'était tout entier évaporé quand ils l'eurent transféré dans un bécher de verre. Le verre avait fondu lui aussi, et les doctes savants parlèrent de l'étrange affinité de la pierre pour le silicium. Cela s'était traduit par des constats incroyables dans le laboratoire bien tenu. Absolument inerte et ne provoquant aucun écoulement de gaz quand chauffée au charbon, restant parfaitement négatif dans un bain de borax et prouvant qu'il restait complètement non volatile à n'importe quelle température, y compris au chalumeau oxyacéthylénique. Sur l'enclume, il se révélait fortement malléable, et dans le noir, sa luminosité était très perceptible. Se refusant résolument à refroidir, il mit bientôt toute l'université en grand émoi. Et quand, chauffé devant le spectroscope, il révéla des bandes brillantes de couleurs irréductibles à n'importe quelle couleur du spectre normal, on évoqua à en perdre le souffle la possibilité de nouveaux éléments, de bizarres propriétés optiques et d'autres choses que des hommes de science stupéfiés ne disent pas volontiers quand ils se confrontent à l'inconnu. Brûlant comme il était, ils le testèrent dans un creuset avec tous les réactifs appropriés. L'eau ne fit rien. Pareil avec l'acide chlorhydrique. L'acide nitrique et même l'aqua regia provoquèrent à peine un chuintement et crépitèrent en giclant au contact de son invulnérabilité torride. Amy avait des difficultés à se souvenir de toutes ces choses, mais reconnut quelques-uns des noms de solvants que je lui mentionnais, dans l'ordre où on les emploie ordinairement. On essaya l'ammoniaque et la soude caustique, l'alcool et l'éther, le nauséabond bisulfite de carbone et une douzaine d'autres. Mais malgré le fait que son poids se réduise à mesure que le temps passe et qu'il semble se refroidir légèrement, il n'y eut aucun changement dans les solvants qui indiquent qu'ils aient pu attaquer la substance en quoi que ce soit. C'était un métal, cependant, aucun doute. Il était magnétique en une propriété. Et après son immersion dans différents acides, il semblait qu'on y trouvait de faibles traces des figures de Wim van Stetten, comme celles décelées sur le fer météorique. Quand il fut suffisamment refroidi, on reprit les essais dans du verre. Et c'est dans un bécher de verre qu'ils laissèrent les éclats pris à l'échantillon original pour les analyses. Le lendemain matin, à la fois le bécher et les échantillons avaient disparu sans aucun reste, sauf une trace carbonisée à l'endroit où on avait posé le verre sur l'étagère en bois. Tout ceci, les professeurs le dirent à Amy lorsqu'ils s'arrêtèrent à sa porte, et à nouveau il les accompagna jusqu'à la pierre messagère des étoiles, bien que cette fois sa femme ne les eût pas accompagnés. Elle avait certainement réduit maintenant, et même les austères professeurs ne purent douter de la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de cette motte brune décroissante, près du puits, il y avait un espace vide où la terre s'était creusée. Et où il mesurait bien 7 pieds la veille, il n'en mesurait à peine plus que 5. C'était encore brûlant, et les savants étudièrent avec curiosité sa surface tout en détachant un autre échantillon, plus grand, avec leurs scies et marteaux. Ils découpèrent plus profondément cette fois-ci, et quand ils s'emparèrent de la plus petite masse, ils virent que le noyau de la chose n'était pas très homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait être le côté d'un considérable globule cassant inclus dans la substance. La couleur, qui ressemblait à quelques-unes des bandes de l'étrange spectre du météorite, était quasi impossible à décrire. Et c'est seulement par analogie qu'ils la nommèrent quand même une couleur. Une texture lustrée qui, auscultée par tapotement, semblait indiquer à la fois fragilité et vacuité. Un des professeurs y donna un audacieux coup de marteau, et elle éclata avec un petit pop nerveux. Rien ne fut émis, et toute trace de la chose s'évanouit avec l'incision. Ne resta qu'une trace hémisphérique d'environ 3 pieds de diamètre, et tous considérèrent comme probable qu'on trouverait d'autres choses à mesure que la paroi qui la recouvrait s'évanouissait. Vaine conjecture. Aussi, après de futiles tentatives de trouver d'autres globules en perçant, les chercheurs disparurent avec leur nouvel échantillon, qui se révéla cependant au laboratoire aussi déconcertant que l'avait été son prédécesseur. En dehors de se révéler presque plastique, de disposer de chaleur et de magnétisme, de posséder un spectre inconnu, de s'évanouir à l'air et d'attaquer les composés de silice avec pour résultat une mutuelle destruction, il ne présenta aucun trait caractéristique relevable. Et à la fin des examens, les scientifiques de l'université furent forcés de reconnaître qu'ils ne savaient pas le classer. Ce n'était rien de connu sur cette terre, mais un fragment du grand dehors. Et en tant que tel, relevait de propriété du dehors et obéissait à des lois extérieures. Il y eut cette nuit-là un orage, et quand les professeurs se rendirent chez Nahum le matin suivant, ils durent se confronter à un aigre désappointement. La pierre, magnétique comme elle était, devait être douée de quelques propriétés électriques, parce qu'elle avait aspiré la foudre, comme le dit Nahum avec une insistance particulière. En une heure, le fermier vit à 6 reprises le sillage de la foudre traverser sa cour, et quand la tempête fut passée, rien qui restait qu'un trou informe près de la margelle du puits, mi-effondré dans la terre éboulée. Creuser n'avait donné aucun résultat, et les scientifiques ne purent qu'entériner le fait de cet évanouissement. L'échec était total. Il ne restait donc rien à faire que revenir au laboratoire et continuer les expériences sur le fragment toujours diminuant, précautionneusement gardé dans du plomb. L'échantillon dura 1 semaine, à la fin de laquelle on n'avait rien appris de véritablement conséquent. Quand il eut disparu, sans même un résidu derrière lui, à ce moment les savants furent pratiquement sûrs qu'ils avaient vu de leurs propres yeux un vestige énigmatique des abysses sans fond du dehors, message âpre et isolé des autres univers et des autres royaumes de matière, de force et d'entité. Comme de bien entendu, les journaux d'Arkham firent leur chou gras de l'incident, de son patronage scientifique, et envoyèrent des reporters interviewer Nahum Gardner et sa famille. Y compris un journal de Boston, qui envoya un journaliste, et Nahum devint rapidement une sorte de célébrité locale. C'était un homme svelte et affable, d'environ 50 ans, vivant avec sa femme et leurs 3 fils dans cette agréable ferme de la vallée. Lui et Amy se rendirent visite fréquemment, leurs femmes aussi. Et Amy n'eut qu'à se louer de lui toutes ces années. Il semblait plutôt fier de la réputation que sa ferme avait attirée et parla souvent du météorite les semaines qui suivirent. Il fit chaud ces mois de juillet et d'août, et Nahum dut travailler dur à son foin sur les 10 hectares de prés qu'il cultivait du côté de Chapman's Brook. Son chariot grinçait dans les profondes ornières des chemins ombreux entre la ferme et les champs. Le travail le fatiguait plus que ce n'avait été le cas les autres années, et il se dit que l'âge commençait à se faire sentir. Alors vint le temps des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrissaient lentement, et Nahum se félicita de ce que ces arbres fruitiers prospéraient comme jamais auparavant. Les fruits grossirent jusqu'à atteindre une taille phénoménale et un éclat imprévu, dans une telle abondance qu'il dut construire de nouvelles claies pour accueillir la prochaine récolte. Mais quand ils furent à point, vint un triste désappointement. De tout ce déploiement succulent, pas un brin qui puisse être mangé. Au lieu de la fine saveur des pommes et des poires, surgissait une amertume furtive et maladive, et même la plus petite bouchée laissait un goût nauséeux. Et il en fut de même avec les tomates et les melons, et Nahum constata tristement que toute son année était perdue. Rapide à relier les causes, il prétendit que le météorite avait empoisonné le sol, et remercia le ciel que ses autres récoltes étaient sur la terre haute, plus loin sur la route. L'hiver vint très tôt et fut très froid. Ami vit Nahum moins souvent qu'auparavant et remarqua qu'il avait l'air soucieux. Le reste de sa famille aussi, et tous semblaient devenus taciturnes. Et ils ne venaient plus qu'irrégulièrement faire leurs devoirs à l'église ou participer aux différentes activités sociales de la région. À cette réserve ou mélancolie, on ne trouva aucune cause, bien que toute la maisonnée ait confessé ici et là que leur santé n'était pas vaillante et ressentir un vague sentiment d'inquiétude. Nahum lui-même en donna la plus évidente formulation quand il dit que le perturbait certaines empreintes dans la neige. Il y avait les habituelles empreintes d'écureuils, de lapins et de renards, mais le fermier soucieux et troublé disait avoir remarqué quelque chose qui n'allait pas dans leur nature et leur arrangement. Ce n'était jamais évident, mais ça l'induisait à penser que ce n'étaient pas là les caractéristiques de l'anatomie et des habitudes que les écureuils, lapins et renards avaient d'ordinaire. Ami écoutait sans grande passion ces paroles, jusqu'à ce qu'une nuit, revenant en traîneau de Clark's Corners, il eut à passer près de la maison de Nahum. C'était une période de lune, et un lapin traversa la route, et les sauts de ce lapin n'avaient rien que ni Ami ni son cheval pussent aimer. Ce dernier, même, se serait enfui au galop si les rênes n'avaient pas été maintenues d'une main ferme. Alors Ami prit au sérieux ce que disait Nahum, et se demanda pourquoi les chiens de Gardner semblaient si effrayés et tremblants chaque matin. Ils en avaient, semblait-il, perdu même le réflexe d'aboyer. En février, les frères MacGregor de Meadow Hill, sortis chasser les marmottes pas très loin de chez les Gardner, en capturèrent un étrange spécimen. Les proportions de son corps semblaient altérées, mais d'une façon étrange et difficile à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que jamais personne n'avait vue à une marmotte. Les frères MacGregor en furent naïvement effrayés et commencèrent par s'en débarrasser. Aussi, il n'y eut que ce qu'ils en dirent à atteindre la population du coin. Mais l'emballement du cheval près de la ferme de Nahum était maintenant reconnu comme incontestable, formant la base du cycle de rumeurs et commérages. Les gens remarquèrent que la neige fondait plus vite près de chez Nahum que n'importe où ailleurs, et en mars, il y eut une discussion craintive dans le magasin des Potter à Clark's Corners. Stephen Rice était passé près de chez les Gardner le matin et avait remarqué les plants de choux émergeant des champs entre les bois et la route. On n'en avait jamais vu de cette taille auparavant, et ils étaient d'une étrange couleur qu'on ne pouvait décrire d'aucun mot. Leur forme était monstrueuse, et le cheval avait frémi en sentant une odeur qui frappa Stephen comme jamais perçue. Le même après-midi, plusieurs personnes se rendirent pour observer ces pousses anormales, et tous convinrent que jamais des plantes de cette sorte ne viendraient à pousser dans un monde sain. On évoqua incidemment les fruits avariés de l'automne précédent, et passa de bouche en bouche l'idée que la terre appartenant à Nahum était corrompue. Bien sûr, c'était le météorite. Et, se souvenant de comment les universitaires avaient trouvé la pierre étrange, plusieurs fermiers évoquèrent le cas avec eux. Un jour, ils se rendirent en délégation chez Nahum. N'ayant pas de goût pour les contes inventés et le folklore, ils furent très pragmatiques dans ce qu'ils inférèrent. Les plans étaient certainement bizarres, mais tous les plans de choux ont plus ou moins des formes bizarres, et pareil pour l'odeur et la couleur. Peut-être que tel élément minéral venu de la pierre avait contaminé le sol, mais ce serait bientôt délayé et lavé. Et comme pour les empreintes et les réactions des chevaux, bien sûr, c'était surtout des ragots qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait qu'engendrer. Il n'y avait rien que des hommes sérieux puissent faire en cas de commérages idiots, que des ruraux superstitieux lanceraient, prêts à tout croire. Et cela fit aussi que pour toute la durée des jours étranges, les savants restèrent à l'écart, méprisants. Un seul parmi eux, quand on lui remit 2 fioles de poussière pour analyse dans les laboratoires de la police, environ 1 an et demi plus tard, se souvint que les couleurs étranges des plants de choux ressemblaient énormément à cette bande anormale de lumière émise par l'échantillon du météore, lorsque, analysé par le spectroscope de l'université, comme ce globule cassant trouvé à l'intérieur de la pierre venue des abysses. Les 2 échantillons avaient produit le même étrange spectre au début, même si plus tard ils en perdirent la propriété. Tout autour de la ferme de Nahum, les bourgeons vinrent prématurément aux arbres, qui la nuit s'agitaient sinistrement au vent. Le 2e fils de Nahum, Thaddeus, un gamin de 15 ans, prétendait qu'il s'agitait de la même façon quand il n'y avait aucun vent. Mais même les ragots ne tombaient pas jusque-là. Et pourtant une inquiétude restait en l'air. Tous les gardeneurs avaient pris l'habitude d'une écoute intense, même quand il n'y avait alentour aucun son qu'ils puissent sérieusement identifier. Une écoute qui tenait plutôt à ces moments où la conscience semblait glisser à moitié. Mais malheureusement, ces moments augmentaient de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'il soit habituel de se dire qu'il y avait quelque chose de travers avec la famille de Nahum. Quand fleurirent les premières saxifrages, elles étaient elles aussi d'une couleur étrange. Pas celles des plants de choux exactement, mais jamais ceux qui les virent ne purent les relier à quelque chose de connu. Nahum en prit quelques fleurs et les emmena à Arkham pour les montrer au rédacteur de la Gazette. Mais ce grand homme ne fit rien d'autre qu'en tirer un billet humoristique, dans lequel les peurs noires des ruraux étaient considérées avec un ridicule à peine poli. Ça avait été une erreur pour Nahum de montrer à un citadin enraciné la façon dont les moriaux, ces noirs papillons de la saxifrage, étaient devenus géants. Avec Avril vint une sorte de folie dans le pays, et on cessa d'utiliser la route qui passait devant chez Nahum jusqu'à l'abandonner totalement. C'était la végétation. Tous les arbres fruitiers fleurirent dans des couleurs étranges, et à travers le sol pierreux de la cour et les pâturages voisins, surgirent des plantes bizarres que seul un botaniste aurait pu relier à l'habituelle flore de la région. Aucune couleur saine ou agréable à voir nulle part, sauf l'herbe et les feuillages. Mais partout, ces variations prismatiques et délirantes des tons primaires comme devenues malades, sans aucune place parmi les teintes connues sur la terre. Les tulipes prirent l'allure d'une menace sinistre, et les sanguines poussèrent dans l'insolence de toutes les perversions chromatiques. Amy et les gardeneurs remarquèrent que la plupart des couleurs gardaient une sorte de familiarité fantomatique, et se souvinrent de celle qu'avait le fragile globule du météorite. Nahum laboura et sema ses 10 hectares, et les champs qu'il avait plus haut, mais n'entreprit rien avec la terre qui entourait la maison. Il savait que cela ne servirait à rien, comptant avec espoir que les étranges pousses de l'été draineraient tout le poison du sol. Il était prêt à tout maintenant, et s'était habitué à l'idée de quelque chose près de lui qui attendait pour être entendu. La malédiction que ses voisins attribuaient à sa maison lui pesait, bien sûr, mais elle pesait bien plus encore sur sa femme. Les garçons, à l'école toute la journée, furent laissés en dehors de tout ça, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par la rumeur. Thaddeus, un jeune particulièrement sensible, était celui qui en souffrait le plus. En mai survinrent les insectes, et la ferme de Nahum devint un cauchemar vrombissant et rampant. Des créatures qui, pour la plupart, n'avaient pas l'aspect ni les mouvements habituels, et dont les habitudes nocturnes contredisaient toutes les observations antérieures. Les gardeneurs commencèrent à veiller la nuit, surveillant en toutes directions, en cas de quelque chose, sans pouvoir dire quoi. C'est là qu'ils surent que Thaddeus avait dit vrai à propos des arbres. Madame Gardner fut la suivante à les voir par la fenêtre, alors qu'elle observait les lourds branchages d'un érable se détachant au clair de lune. Les branchages d'évidence s'agitaient, et il n'y avait aucun vent. Cela devait être la sève. Il se passait quelque chose d'étrange dans tout ce qui poussait désormais. Et pourtant, ce ne fut pas quelqu'un de la famille de Nahum qui fit la découverte suivante. La familiarité le leur rendait invisible, et ce dont ils ne pouvaient se rendre compte fut aperçu par un timide représentant en farine de Boston, qui passa en voiture un soir, dans l'ignorance des rumeurs du pays. Ce qu'il raconta à Arkham fut repris dans un entrefilet de la Gazette, et c'est ainsi que l'apprirent tous les fermiers, et Nahum le premier. La nuit avait été sombre, et la lampe de son cabriolet insuffisante. Mais près d'une ferme de la vallée, et tout le monde en lisant sut que c'était celle de Nahum, l'obscurité s'était faite moins dense. Une luminosité faible, mais bien distincte, semblait présente dans toute la végétation, l'herbe, les feuilles et les fleurs. Tandis qu'à un certain instant, un éclat détaché de cette phosphorescence sembla briller furtivement dans la cour près de la grange. L'herbe jusqu'ici avait semblé préservée, et on laissait les vaches brouter librement dans le champ jouxtant la maison, mais vers la fin mai, le lait se fit aigre. Et quand Nahum eut reconduit les bêtes à son champ du haut, le dommage cessa. Le changement dans l'herbe et les feuillages devint perceptible peu de temps après. Tout ce qui était vert devenait gris et développait une haute et singulière qualité de brillance. Ami était la seule personne qui continuait désormais à venir en visite, et ces visites s'espacèrent peu à peu. Une fois l'école terminée, les gardeneurs furent virtuellement coupés du monde, et quelquefois demandaient à Ami de faire leur course en ville. Il s'affaiblissait curieusement, à la fois mentalement et physiquement, et personne ne fut surpris quand se répandit la nouvelle de la folie de Madame Gardner. Cela se passa en juin, à peu près pour l'anniversaire de la chute du météorite, et la pauvre femme se mit à crier à propos de choses dans l'air qu'elle ne pouvait décrire. Dans son délire, il n'y avait pas un seul nom spécifique, mais seulement des verbes et des pronoms, des choses qui bougeaient et changeaient et volaient, et ses oreilles sursautaient à des impulsions qui n'étaient pas de vrais sons. On emportait quelque chose, elle était vidée de quelque chose. Quelque chose s'accrochait à elle qui n'aurait pas dû l'être. Quelqu'un devait faire cesser cela. Rien n'était plus jamais tranquille dans la nuit. Les murs et les volets tremblaient. Nahum ne put se résoudre à l'envoyer à l'asile local, mais la laissa errer dans la maison aussi longtemps qu'elle ne portait pas atteinte à elle-même ni aux autres. Même quand son visage changea, il ne fit rien. Mais quand les garçons commencèrent à en avoir peur, et que Thaddeus faillit s'évanouir une fois qu'elle lui faisait face, il décida de la garder enfermée au grenier. En juillet, elle cessa de parler, et se traînait devant Eucatre, et avant la fin du mois, Nahum fit la découverte insensée qu'elle était légèrement lumineuse dans le noir, de la même façon que l'était, il le savait maintenant, la végétation qui l'entourait. C'est un petit peu avant cela que les chevaux s'étaient mis à piaffer. Quelque chose les avait réveillés dans la nuit, et leurs ruades et hennissements dans leur boxe furent terribles. Il sembla que rien ne pourrait les calmer, et quand Nahum ouvrit la porte de l'écurie, ils s'enfuirent effrayés dans les fourrés et les bois. Cela lui prit une semaine pour rattraper les quatre, et ce fut pour découvrir qu'il ne lui serait désormais d'aucun usage, car incontrôlable. Quelque chose s'était cassé dans leur cervelle, et il dut les abattre, tour à tour, pour leur propre bien. Nahum emprunta un cheval à Ami pour ses foins, mais s'aperçut qu'il refusait d'approcher de la grange. Il résistait, se dérobait, hennissait, et à la fin il n'eut plus d'autre moyen que de l'amener jusqu'à la cour, puis de pousser le lourd chariot à force d'hommes assez près du fenil pour transborder le fourrage. Et pendant tout ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs dont les teintes avaient été si bizarres tournaient au gris, devenaient cassantes. Les fruits vinrent tout en gris, des fruits nains et ternes. Les astères et les solidages fleurirent gris et tordus, et les roses et les zinnias, les trémières dans la cour du devant semblaient si blasphématoires que l'aîné des fils de Nahum, Zenas, les coupa. Les insectes étrangement boursouflés moururent vers cette époque. Même les abeilles avaient quitté leur ruche et s'étaient enfuies dans les bois. En septembre, la totalité de la végétation s'effritait en poussière grisâtre, et Nahum se mit à craindre que les arbres meurent avant que le poison soit drainé du sol. Sa femme en était arrivée maintenant à des cris d'appel terrifiants, et lui et les garçons en état de permanente tension nerveuse. Ils fuyaient les gens maintenant, et quand l'école rouvrit, les garçons n'y retournèrent pas. Mais ce fut Ami, lors d'une de ses rares visites, qui réalisa le premier que l'eau du puits n'était plus potable. Elle avait un goût infect qui n'était ni exactement fétide ni exactement salé, mais Ami recommanda à son ami de creuser un autre puits dans un terrain plus haut et l'utiliser jusqu'à ce que le sol soit à nouveau sain. Nahum pourtant ignora l'avertissement, et il s'était en ce temps-là replié sur des choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuaient à utiliser l'eau polluée, la buvant par réflexe, et avec autant d'apathie qu'ils mangeaient leur maigre repas mal cuit qui faisait la routine ingrate et monotone de leurs jours sans but. Il y avait quelque chose d'une impassible résignation pour eux tous, comme s'ils marchaient dans un autre monde, entre les rangs de gardes sans nom, vers une perte certaine et familière. La folie s'empara de Thaddeus en septembre, après une visite au puits. Il était venu avec un seau et était revenu les mains vides, hurlant et agitant les bras, et peu à peu sombrant dans un gloussement insane et chuchotant à propos des couleurs qui bougent là-dessous. Deux dans la même famille, c'était une mauvaise nouvelle, mais Nahum y fit face résolument. Il laissa faire le garçon une semaine environ, jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et se blesser lui-même, puis il l'enferma dans une pièce du grenier en face de celle de sa mère. La façon dont ils hurlaient de l'un à l'autre de derrière leur porte verrouillée était vraiment terrible, surtout pour le petit Marwyn, qui s'imagina qu'il parlait dans quelque terrible langage qui n'appartenait pas à ceux de la terre. Marwyn devenait effroyablement imaginatif, et son inquiétude s'aggrava après l'enfermement de son frère, qui avait été son meilleur compagnon de jeu. Une vague de mortalité se répandit dans la basse-cour au même moment à peu près. Les poulets devenaient gris et mouraient très vite, et on leur trouvait une chair sèche et immonde quand on la coupait. Les cochons prirent extraordinairement de la graisse, puis soudainement furent affectés de changements détestables que personne ne put expliquer. Leur chair était bien sûr inconsommable, et Nahum était à bout de sens. Aucun vétérinaire du coin ne voulait plus venir chez lui, et le vétérinaire de la ville d'Arkham était ouvertement déconcerté. Les porcs commencèrent aussi à devenir gris et cassants, et à tomber en morceaux avant même de mourir, et leurs yeux et leurs museaux développèrent des aberrations singulières. C'était totalement inexplicable, parce qu'ils n'avaient jamais été nourris avec les fourrages pollués. puis quelque chose contamina les vaches. Certaines parties de leur corps, ou parfois le corps tout entier, se ratatinaient ou se rétrécissaient étrangement, entraînant d'atroces dislocations ou désintégrations. En dernier ressort, et il en résultait toujours la mort, il y avait ce mystère de devenir gris et cassant comme ce qui était arrivé au porc. Il ne pouvait être question de poison, parce que tous les cas s'étaient produits dans une étable verrouillée et au calme. Pas de morsure ni de parasite qui aurait pu apporter un virus, et quelle bête vivante au monde pouvait traverser un obstacle solide? Ce ne pouvait être qu'une maladie naturelle. Mais quelle maladie pouvait induire de tels résultats au-delà de toute idée humaine? Quand vint le temps de la moisson, il n'y avait pas un animal à survivre dans les environs, parce que le bétail et la volaille étaient morts et que les chiens s'étaient enfuis. Ces chiens, au nombre de 3, s'étaient tous enfuis une nuit et on n'avait plus entendu parler d'eux. Les 5 chats étaient partis quelque temps auparavant, mais on s'aperçut à peine de leur départ puisqu'il n'y avait plus de souris à attraper et que seule Madame Gardner avait apprivoisé ces élégants félins. Le 19 octobre, un Nahum chancelant entra dans la ferme d'amis avec une nouvelle tragique. La mort avait pris le pauvre Thaddeus dans son grenier et elle s'était produite d'une façon qui ne pouvait être racontée. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial derrière la ferme et y avait déposé ce qu'il avait trouvé. Il n'avait rien pu lui arriver du dehors, parce que la petite lucarne grillagée et la porte verrouillée étaient intactes. Mais c'était pire que ce qui était arrivé dans la grange. Ami et sa femme consolèrent l'homme effondré du mieux qu'ils le purent, mais tremblaient en le faisant. La terreur la plus directe semblait encercler les Gardner et tout ce qu'ils touchaient, et la seule présence de quelqu'un dans la maison était le souffle de contrées innommées et innommables. Amir accompagna Nahum à contre-cœur et fit ce qu'il put pour calmer les sanglots hystériques du petit Marwin. Zenas n'avait pas besoin d'être calmé. Il était assez attardé pour ne rien faire que rester là et obéir à ce que son père lui disait. Et Ami pensa que c'était une belle pitié du destin. Plusieurs fois, des cris et des sanglots répondirent faiblement à ceux de Merwin depuis le grenier, et à son regard interrogateur, Nahum répondit à Ami que sa femme s'affaiblissait beaucoup. Quand vint la nuit, Ami se prépara à partir. Quelle que soit leur amitié, elle ne pourrait le faire rester dans ce lieu où réapparaissait la faible luminescence de la végétation et où les arbres s'agiteraient ou ne s'agiteraient pas même sans vent. C'était une grande chance pour Ami qu'il ne soit pas trop imaginatif. Même si de telles choses existaient, son esprit ne s'y penchait que peu. Mais aurait-il été capable de relier et de réfléchir à tous ces prodiges qui l'entouraient, qu'inévitablement il en serait devenu fou à lier? Dans le crépuscule, il se hâta de revenir chez lui, les cris de la femme folle et de l'enfant à bout de nerfs lui résonnant horriblement dans les oreilles. 3 jours plus tard, Nahum surgit dans la cuisine d'Ami au grand matin, et en l'absence de son hôte se mit à déblatérer une histoire encore plus désespérée que Madame Pierce écouta dans un effroi grandissant. C'était au sujet du petit Merwin cette fois. Il avait disparu. Il était sorti tard la nuit dernière avec une lanterne et un seau pour chercher de l'eau et n'était pas revenu. Il s'effondrait de plus en plus depuis des jours et ne savait plus ce qu'il faisait, pleurait pour n'importe quoi. Il y avait eu un cri effroyable depuis la cour, mais avant que le père ait atteint la porte, l'enfant s'était envolé. Aucune lumière nulle part, alors qu'il était parti avec la lanterne, et de l'enfant lui-même, plus de traces. Sur le moment, Nahum pensa que la lanterne et le seau avaient disparu aussi, mais quand revint le jour et que le père revint de toute sa nuit de recherche dans les bois et les champs, il s'aperçut d'une chose très curieuse près du puits, comme si on avait écrasé quelque chose, dont résultait une sorte de masse de fer qui certainement avait été la lanterne, tandis qu'une tige tordue et un cerceau déformé à côté, les deux à moitié fondus, voilà ce qui semblait rester du sceau. C'était tout. Nahum était au-delà de l'imagination, Madame Pierce était blême, et Amy, quand il fut revenu à la maison et qu'on lui raconta l'histoire, ne pouvait se résoudre à y croire. Marwyn avait disparu, et cela ne servirait à rien d'en prévenir les gens alentour, qui fuyaient les Garners désormais. Pas besoin non plus d'en parler aux gens de la ville à Arkham, qui riaient de tout cela. Tad était mort, et maintenant Marwyn partit. Quelque chose rampait et rampait, attendant d'être vu, entendu et senti. Ce serait bientôt le tour de Nahum, et il voulait qu'Amy veille alors sur sa femme et sur Xenas, s'il lui survivait. Ce devait être une sorte de jugement. Même s'il ne pouvait deviner pour quelle faute, et qu'il avait toujours marché droit selon les règles du Seigneur, pour ce qu'il en savait. Les deux semaines suivantes, Amy n'eut pas de nouvelles de Nahum. Inquiet de ce qui avait pu arriver, il surmonta sa peur et se rendit chez les Gardner. Il n'y avait pas l'habituelle fumée sortant de la grande cheminée, et pendant un instant le visiteur appréhenda le pire. L'apparence de la ferme tout entière était choquante. Des feuilles mortes et de l'herbe grisâtre dans la cour, la vigne vierge tombant en lambeaux rigides sur les vieux murs épignons, et de grands arbres nus s'agitant sur le ciel gris de novembre avec une malévolence manifeste, dont Amy ne put que ressentir qu'elle provenait d'un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais au moins Nahum vivait-il encore. Il était à bout de force, alité sur un matelas dans la cuisine voûtée, mais parfaitement conscient et capable encore de donner des ordres à Xenas. La pièce était mortellement froide. Et comme Amy frissonnait visiblement, l'hôte cria d'une voix étouffée à Xenas d'apporter du bois. Du bois, bien sûr, il y en avait sérieusement besoin, puisque le vieil âtre était éteint et vide, avec un nuage de suie soufflé par le vent gelé qui tombait de la cheminée. À cet instant, Nahum lui demanda si, avec le supplément de bois, il se sentait mieux, et Amy comprit ce qui s'était passé. La corde robuste avait fini par craquer, et l'esprit de l'infortuné fermier était protégé maintenant de tout malheur supplémentaire. Le questionnant sans le brusquer, Amy ne put obtenir de certitude claire sur la raison de l'absence de Xenas.
« Dans le puits, il vit dans le puits. »
fut tout ce que le père embrumé voulut dire. Le visiteur eut alors dans un flash une soudaine pensée pour la mère folle, et il posa ses questions dans une autre direction.
« Nabi, pourquoi elle est ici ?»
fut la réponse toute surprise du pauvre Nahum, et Amy comprit qu'il aurait à la chercher lui-même. Abandonnant à lui-même sur son matelas le bavard inoffensif, il prit les clés au cou près de la porte et grimpa l'escalier chancelant vers le grenier. Tout était clos et immonde ici, et on n'entendait aucun bruit nulle part. Des quatre portes qu'il voyait, une seule était verrouillée, et c'est sur celle-ci qu'il essaya les clés de l'anneau qu'il avait pris. La troisième clé se révéla la bonne, et après quelques tâtonnements, Amy poussa d'un coup la basse porte blanche. Il faisait très sombre à l'intérieur, parce que la fenêtre était petite et obscurcie par des barreaux de gros bois, et Amy d'abord ne distingua rien du tout sur le plancher nu. La puanteur était terrible, et avant d'entrer plus loin, il eut à revenir dans la pièce voisine et se remplir les poumons d'air respirable. Quand il entra de nouveau, Il vit quelque chose de sombre dans le coin, et quand il l'aperçut, il cria carrément. Et tandis qu'il criait, il pensa qu'un nuage éphémère éclipsait la fenêtre, et une seconde plus tard, il se sentit effleuré lui-même par une sorte d'effroyable courant de vapeur. D'étranges couleurs lui dansaient devant les yeux, et il n'aurait pas été hébété par l'horreur qu'il avait devant les yeux, il aurait pensé qu'avait explosé le globule du météorite frappé par le marteau du géologue, ou que s'était rassemblée ici la végétation morbide qui avait germé ce printemps. Dans l'instant, il ne pensa qu'au monstrueux blasphème qui lui faisait face et qui d'évidence avait partagé le destin sans nom du jeune Thaddeus et du bétail. Mais la plus terrible chose concernant cette horreur, c'est que très lentement, mais de façon perceptible, elle bougeait comme si elle continuait de ramper. Ami ne voulut me donner aucun renseignement complémentaire sur cette scène, mais la forme dans le coin ne réapparut pas dans son récit comme un objet animé. Il y a des choses qui ne peuvent être mentionnées, et ce qui est accompli par humanité commune est parfois cruellement jugé par la loi. J'imagine qu'il n'y eut pas de choses animées qui soient restées dans la pièce du grenier, et que laisser derrière soi une telle chose capable de mouvement aurait été un acte assez monstrueux pour condamner tout être responsable aux tourments éternels. N'importe qui, à part un solide fermier, se serait évanoui ou serait devenu fou. Mais Ami, en pleine conscience, retraversa la porte basse et la referma derrière lui sur sa malédiction secrète. Il devait s'occuper maintenant de Nahum. Il devait le nourrir et le soigner, le transporter dans un lieu où on prendrait soin de lui. Entamant sa descente des escaliers obscurs, Ami entendit dessous un bruit sourd. Il pensa même qu'un cri avait soudainement été étouffé et se souvint convulsivement de cette vapeur moite qu'il avait frôlée dans la glaçante pièce du dessus. Qui avait poussé ce cri ou était entré? Stoppé par une vague peur, il entendit d'autres bruits en bas. Indubitablement, on traînait quelque chose de lourd, et un vacarme encore plus effroyable de quelque lutte ou malsaine espèce de succion. Son réflexe d'association aiguillonné par une tension fiévreuse, il pensa inexplicablement à ce qu'il avait vu en haut. Mon Dieu! Dans quel fabuleux monde de cauchemar avait-il fait la bourde de tomber? Il n'osait plus ni avancer ni reculer, et restait tremblant dans l'angle le plus reculé du palier. Les moindres détails de la scène venaient s'enflammer dans son cerveau. Les sons, le pressentiment d'une issue désastreuse, l'obscurité, les marches abruptes, ciel miséricordieux, la faible mais indiscutable luminosité de tous les panneaux de bois autour de lui, les marches, la rampe, les lattes et même les poutres. Alors survint le fantastique hennissement du cheval d'Ami resté dehors, suivi aussitôt d'un bruit de galop qui signifiait une fuite éperdue. En un moment, le cheval et son cabriolet étaient hors de portée de l'oreille, abandonnant l'homme terrorisé dans son escalier noir à tenter de deviner ce qui s'était passé. Mais ce ne fut pas tout. Survint un autre bruit du dehors, une sorte d'éclaboussure liquide, de l'eau. Ce devait être le puits. Il avait laissé Hero tout près sans l'attacher, et une roue du cabriolet avait dû frôler la couronne du puits et faire tomber une pierre. Et à nouveau, la pâle phosphorescence dans tous ses panneaux de bois. Dieu, que cette maison était vieille! Pour le gros œuvre au moins datant de 1670, et le toit mansardé pas après 1730. On entendait distinctement un faible grattement sur le plancher du rez-de-chaussée, et Ami agrippa plus fermement un lourd gourdin qu'il avait ramassé dans le grenier au cas où. Reprenant lentement contrôle de ses nerfs, il termina sa descente et se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais ce ne fut pas la peine d'aller au bout, parce que ce qu'il y cherchait n'était plus là. C'était venu à sa rencontre, et c'était encore vivant. à sa manière. Si cela rampait ou si c'était remorqué par une force extérieure, Ami n'aurait pu le dire, mais la mort s'en était emparée. Tout s'était passé dans la dernière demi-heure, mais l'affaissement, le gris, la désintégration avaient déjà fait leur ouvrage. Il y eut un horrible bruit de cassure, et des fragments secs s'écroulèrent. Ami ne pouvait le toucher, mais regardait horrifié cette parodie distordue de ce qui avait été un visage.
« C'était quoi, Nahum ? C'était quoi ? »
cria-t-il, et les lèvres fendues, gonflées, furent juste capables de crépiter leur ultime réponse.
« Rien, rien, la couleur, ça brûle, c'est froid, mouillé, mais ça brûle. » Ça vit dans le puits, je l'ai vu, genre de fumée, juste comme les fleurs le printemps dernier. Puits brille la nuit, Tad, Murny, Zenas, tous ils vivent, ça bouffe la vie de tout. Dans cette pierre, ça doit venir de cette pierre, empoisonne tout autour. C'est pas ce que ça veut, ce truc rond. Ce truc rond que ces types de l'université ont trouvé dans la pierre, quand ils l'ont éclaté, c'était la même couleur, juste pareil, comme les fleurs et les plantes. Doit y en avoir d'autres, des germes, graines, ils poussent. Les ai vus là la première fois, là, cette semaine, ont dû tirer fort pour Zenas, un garçon tout grand, plein de vie. Ça t'assomme l'esprit et te le vole, te brûle. Dans l'eau du puits, t'avais raison là-dessus. Putain d'eau, Zenas n'est jamais revenu du puits. A plus pu en sortir, te tire. Tu sais que quelque chose va arriver, mais ça sert à rien. L'ai vu au moment où ça a pris Zenas. Et pour Nabi, Ami, ah, j'ai plus ma tête. Je sais plus combien de temps je l'ai plus nourri. Ça l'attrapera aussi si on ne fait pas attention. Rien qu'une couleur. Sa figure commence à briller de cette couleur quand c'est la nuit. Et ça brûle et suce. Ça vient d'un endroit où les choses ne sont pas comme elles sont ici. Un de leurs savants l'avait dit. Il avait raison. Méfie-toi, ami. Ça peut sucer plus. Ça suce la vie.
Et ce fut tout. Ce qui avait parlé ne parlerait plus, parce que cela s'était complètement effondré. Ami ramassa une nappe rouge et la posa sur ce qui restait, puis ouvrit la porte arrière donnant sur les champs. Il grimpa la colline jusqu'au pâturage d'en haut et revint chez lui par la route nord et les bois. Il n'avait pu se résoudre à passer près du puits qui avait effrayé son cheval. Il l'avait examiné de derrière la fenêtre et constaté qu'aucune pierre ne manquait à la margelle. Ce qui signifiait que son cabriolet entraîné n'avait rien heurté du tout. L'éclaboussure provenait d'autre chose, quelque chose qui s'était jeté dans le puits après ce qui avait été fait au pauvre Nahum. Quand Ami reparut chez lui, le cheval et le cabriolet étaient revenus depuis longtemps, jetant sa femme dans les griffes de l'angoisse. La rassurant sans rien lui expliquer, il repartit aussitôt pour Arkham et déclara aux autorités que la famille Gardner n'était plus. Il n'entra dans aucun détail, mais parla principalement de la mort de Nahum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà enregistrée, et suggéra que la cause en semblait la même affection qui avait tué leur bête. Il déclara aussi que Mawin et Zenas avaient disparu. Il fut soumis à un long interrogatoire au poste de police, et à la fin on demanda à Ami de conduire 3 agents à la ferme des Gardner, accompagnés du coroner et du médecin légiste, enfin du vétérinaire qui avait traité les animaux malades. Il le fit malgré sa volonté, parce que l'après-midi s'avançait et qu'il craignait la tombée de la nuit en ce lieu maudit, même si c'était plus rassurant d'avoir autant de monde avec lui. Les 6 hommes suivirent son cabriolet dans leur propre fiacre et arrivèrent sur les 16 heures à la ferme infectée. Même familier des expériences les plus épouvantables, aucun des agents ne put rester insensible à ce qu'ils trouvèrent dans le grenier et sous la nappe rouge sur le plancher du rez-de-chaussée. L'aspect même, tout entier, de la ferme dans sa désolation grise était terrible en soi, mais ces 2 débris rampants étaient au-delà de toute limite. Aucun d'eux pour supporter de les regarder longtemps, et même le médecin légiste admit qu'il disposait de bien peu pour son examen. Bien sûr, des prélèvements furent effectués pour analyse, et il se mit en mesure de les obtenir, et il semble qu'une étrange conséquence survint au laboratoire de l'université à laquelle on soumit finalement les 2 fioles de poussière. Sous le spectroscope, les 2 prélèvements émirent un spectre inconnu, dans lequel la plupart des raies déconcertantes étaient exactement les mêmes que celles notées lors de l'analyse de l'étrange météorite l'année précédente. Et cette propriété d'émettre un spectre disparut au bout d'un mois, la poussière consistant seulement ensuite en phosphates alcalins et carbonates. Ami n'aurait rien dit aux agents de ce qui concernait le puits s'il avait pensé qu'il voudrait s'en mêler tout de suite. On arrivait au crépuscule et il était anxieux de repartir. Mais il ne pouvait s'empêcher de regarder nerveusement la margelle sous son manteau arrondi, et quand un agent l'interrogea, il admit que Nahum redouta quelque chose là en bas, et tellement qu'il n'avait jamais osé le fouiller pour y chercher Merwin ou Zenas. Après cela, il n'y eut plus rien à faire que de le vider et de l'explorer immédiatement, et Ami dut attendre en tremblant tandis que, seau après seau, l'eau fétide était remontée et jetée sur le sol trempé alentour. Les hommes reniflaient de dégoût à ce fluide et sur la fin se pinçaient le nez contre l'horreur qu'il remuait. Ce ne fut pas un travail aussi long qu'il l'aurait cru, tant l'eau était exceptionnellement basse. Il n'est pas besoin de décrire avec trop de détails ce qu'ils découvrirent. Marwin et Zenas étaient là, tous deux, bien que les vestiges fussent déjà à l'état de squelette. Il y avait aussi un petit chevreuil et un grand chien dans le même état, et nombre d'os d'animaux plus petits. La vase et la boue au-dessous semblaient inexplicablement poreuses et bouillonnantes, et un homme qui descendit à la force des mains avec une longue perche trouva qu'il pouvait enfoncer toute la longueur du bois dans le limon visqueux du fond sans rencontrer d'obstacle solide. Le soir était maintenant venu et on apporta des lanternes de la maison. Quand on constata que rien de plus ne pourrait résulter de l'examen du puits, ils revinrent à l'intérieur et se rassemblèrent dans l'ancien salon, où la lumière intermittente d'une demi-lune reflétait discrètement la grise désolation du dehors. Les 6 hommes étaient franchement déroutés par la totalité de l'affaire, et ne pouvaient trouver aucun lien convaincant entre les étranges dérives de la végétation, la maladie inconnue qui avait frappé le bétail et les humains, et les morts inexplicables de Merwin et Zenas dans le puits pollué. Ils étaient au courant des commérages du pays, c'est vrai, mais ne pouvaient croire que ce qui s'était produit n'obéisse pas à des lois naturelles. Aucun doute quant au fait que le météorite ait infecté le sol, mais la maladie des personnes et d'animaux qui n'avaient rien consommé de ce qui poussait dans ce sol était une autre affaire. Est-ce que c'était l'eau du puits? Bien possible. Ce serait une bonne idée de l'analyser. Mais quelle folie singulière avait pu pousser les 2 garçons à sauter dans le puits? Leur double geste était si pareil, et les restes recueillis prouvaient qu'ils avaient tous deux souffert de la mort grise et cassante. Pourquoi tout ici était gris et cassant? C'est le coroner, assis près d'une fenêtre donnant sur la cour, qui le premier remarqua la lueur sortant du puits. La nuit était complète maintenant, et tout l'odieux environnement semblait faiblement lumineux, en tout cas plus que le rayonnement de la lune. Mais cette nouvelle lueur avait quelque chose de défini et distinct, et semblait sortir du puits noir comme le rayon affaibli d'une torche, produisant de mornes réflexions dans les flaques que l'eau jetée avait constituées. c'était une très étrange couleur, et comme tous les hommes se rassemblaient autour de la fenêtre, Ami s'emballa violemment. Parce que cet étrange faisceau de miasmes dégoûtants ne lui était pas d'une teinte inconnue. Il avait vu cette couleur auparavant, et redoutait de penser à ce qu'elle signifiait. Il l'avait vu dans l'ignoble globule de cet aérolithe 2 étés plus tôt. Il l'avait vu dans la végétation folle du dernier printemps. Et il avait pensé la revoir un instant ce matin même, contre la petite fenêtre à barreaux de cette terrible pièce dans le grenier où des choses sans nom s'étaient produites. Elle était apparue là une seconde, et ce flux de vapeur moite et haïssable qu'il avait effleuré, après quoi le malheureux Nahum avait été emporté par quelque chose issu de cette couleur. Il l'avait dit à sa toute fin, dit que c'était le globule et les plantes. Après, il n'y avait plus eu que l'emballement du cheval dans la cour et l'éclaboussure dans le puits, et maintenant ce puits vomissait dans la nuit un pâle et insidieux rayon de la même teinte démoniaque. Il faut rendre hommage à la vigilance d'esprit d'Ami d'avoir rassemblé les éléments de puzzle même dans un moment aussi tendu, sur une question d'abord scientifique. Il ne put que s'étonner, à cette brillance, d'éprouver la même sensation qu'à la vapeur aperçue le jour même, contre une fenêtre donnant sur le ciel du matin, et d'une exhalaison nocturne perçue comme une brume phosphorescente sur le fond du paysage noir et foudroyé. Ce n'était pas possible, c'était contre les lois de la nature. Et il pensa à ces terribles derniers mots de son ami dévasté. « Ça vient d'un endroit où les choses ne sont pas comme elles sont ici. » Un de leurs savants l'avait dit. Les trois chevaux, dehors, attachés à une paire d'arbres flétris près de la route, hennissaient et ruaient frénétiquement. Le conducteur du fiacre s'approchait de la porte pour les rejoindre, mais Ami posa une lourde main sur son épaule. « Va par là-bas, » siffla-t-il. « Il y a plus que ce qu'on en sait. Nahum a dit que quelque chose vivait dans le puits qui vous suçait toute la vie. Il a dit que c'était quelque chose qui venait d'une de ces boules rondes comme celles qu'on avait vues dans cette pierre il y a un an, au mois de juin. « Ça suce et ça brûle, » il a dit. « Et c'est juste un nuage de couleurs comme cette lumière là-devant, qu'on voit à peine et qu'on peut pas dire ce que c'est. Nahum, il disait que ça se nourrit sur n'importe quoi qui vit et devient plus fort tout le temps. Il a dit qu'il l'avait vu sa dernière semaine. Ça doit être quelque chose au-delà du ciel comme les types de l'université ont dit que la pierre du météore ça l'était. La façon dont c'est fait et la façon dont ça agit, c'est pas la façon du bon Dieu. C'est quelque chose de bien plus loin. » Aussi, ils restèrent indécis tandis que la lumière du puits devenait plus forte et que les chevaux entravés ruaient et hennissaient dans une frénésie grandissante. C'était vraiment un moment affreux. Avec la terreur dans cette maison ancienne et maudite, 4 monstrueux déblais de morceaux, 2 de la maison et 2 du puits, dans une caisse en bois derrière et cette flèche d'une iridescence inconnue et contre nature surgit des profondeurs devant eux. Ami avait retenu le cocher sur une impulsion, sans se souvenir comment lui-même était sorti indemne après l'effleurement de cette vapeur colorée dans le grenier, mais peut-être c'était aussi bien qu'il ait agi comme il l'avait fait. Personne ne saura jamais ce qu'il y avait au dehors cette nuit, et que, malgré le blasphème du dehors, il n'y ait pas eu d'homme blessé ni à l'esprit atteint, et personne pour savoir ce qu'il n'aurait pas dû être fait à cet ultime moment, quand cette force grandissait et que le ciel nuageux sous la lune déployait les signes d'un danger inconnu. Tout d'un coup, un des agents près de la fenêtre émit un court et profond hoquet. Les autres le regardèrent et aussitôt suivirent son propre regard vers le point où son propre égarement avait été soudain bloqué. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce qui avait été si disputé dans les commérages du pays n'était plus discutable, et c'est à cause de cette chose que tous les hommes présents s'accordèrent silencieusement plus tard à propos des jours étranges et n'en parlèrent jamais à Arkham. Il est tout d'abord nécessaire de prévenir qu'aucun vent ne soufflait à 7 heures du soir. Ce fut le cas un peu plus tard, mais absolument pas à ce moment. même les tiges sèches qui subsistaient de l'herbe à moutarde, grise et charbonneuse, et le fanion sur le haut du fiacre étaient immobiles. Et pourtant, du sein de ce calme tendu et impie, les hautes branches nues de tous les arbres dans la cour s'agitaient. Elles remuaient, de façon spasmodique et morbide, griffant les nuages qu'éclairait la lune dans une folie convulsive et épileptique, grinçant impuissamment dans l'air vicié comme si, secouées par une chaîne de liens étrangères et sans corps avec les horreurs se tordant en convulsions sous leurs noires racines. Plus un homme ne respira pendant de longues secondes. Alors un nuage noir plus épais s'interposa sous la lune, et la découpe des branches folles disparut momentanément. Ce fut un cri général, rauque, étouffé, mais presque similaire dans chaque gorge. Parce que la terreur ne s'était pas évanouie avec l'image, mais que dans cet effrayant instant d'obscurité totale, les veilleurs aperçurent, se trémoussant sur le haut des arbres, un millier de faibles points de rayonnement profane, agitant chaque branche comme le feu Saint-Elme ou les flammes qui tombèrent sur la tête des apôtres à la Pentecôte. C'était une constellation monstrueuse de lumière surnaturelle, comme un essaim gonflé de lucioles nourries de cadavres dansant une sarabande d'enfer sur un marécage maudit. Et sa couleur était la même intrusion sans nom qu'Amis s'était accoutumé à reconnaître et à craindre. Et pendant tout ce temps, le faisceau phosphorescent qui surgissait du puits devenait de plus en plus large, imposant au sens des hommes blottis les uns contre les autres une idée de destruction et d'anormalité qui outrepassait toute image que leurs esprits conscients auraient pu former. Ce n'était plus quelque chose qui brillait, mais quelque chose qui se déversait. Et quand le flux sans forme de l'implacable couleur quittait le puits, il semblait s'envoler directement vers le ciel. Le vétérinaire, en tremblant, alla jusqu'à la porte de devant et la verrouilla de son lourd barreau de bois. Ami ne tremblait pas moins et ne put que montrer un point en le désignant, faute de pouvoir contrôler sa voix, quand il voulut qu'il remarque la luminosité grandissante des arbres. Les hennissements et ruades des chevaux étaient de plus sauvagement effrayés, mais pas un de ceux du groupe de la vieille maison ne se serait aventuré là-bas, quelle qu'en aurait été la récompense terrestre. Maintenant, la brillance des arbres augmentait, tandis que les branches sans repos se hérissaient de plus en plus à la verticale. Le bois de la voûte sur le puits brillait aussi maintenant, et un des policiers tendit avec stupeur le doigt vers les cabanes de bois et les ruches près du mur côté ouest. Il commençait à briller aussi, même si le fiacre et le cabriolet des visiteurs semblaient pour l'instant ne rien subir. Alors on entendit une commotion puissante et un galop sur la route, et quand Ami orienta la lampe pour mieux voir, ils réalisèrent que les deux chevaux effrayés avaient brisé leurs entraves et s'étaient enfuis avec le fiacre. Le choc eut pour effet de délier les langues. On échangea des réflexions embarrassées. « Ça contamine tout ce qui est organique autour d'ici !» bredouilla le médecin légiste. Personne ne répondit, mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra l'idée que sa longue perche pouvait avoir réveillé quelque chose d'intangible.
« C'était horrible !» dit-il. Il n'y avait pas de fond du tout, juste de la vase, des bulles, et l'impression de quelque chose qui remuait là-dedans.
Le cheval d'Ami hennissait et ruait apeuré sur la route au dehors, étouffant presque le chevrotement de son propriétaire à bout de force, tandis qu'il rassemblait ses propres idées sans suite.
Ça vient de cette pierre. Elle pousse là-dessous. Elle attrape tout ce qui vit. Elle se nourrit de ça, du corps et de l'esprit. Tad, Murney, Zenas, Nabi et Nahum, le tout dernier. Ils ont tous bu de cette eau. Ça les a pris plus fort. Ça vient de loin au-delà, où les choses ne sont pas comme elles sont ici. Là, ça s'en repart.
Et tandis que la colonne de couleur inconnue s'enflait soudain plus fort et commençait à s'enrouler elle-même dans la fantastique suggestion d'une forme que chaque témoin plus tard décrirait différemment, Alors vint du pauvre Hero entravé un bruit que nul homme jusqu'ici ni depuis n'avait jamais entendu d'un cheval. Chacun dans la salle basse et voûtée tendit l'oreille, et Ami se détourna de la fenêtre, empli d'horreur et de nausée. Les mots ici ne peuvent convenir. Quand Ami regarda de nouveau, la malheureuse bête gisait abattue et inerte sur le sol au clair de lune entre les brancards brisés du cabriolet. C'était ce qui restait de Hero jusqu'à ce qu'il le brûle, le lendemain. Mais à présent, il n'était pas temps de se plaindre. Un des policiers, au même instant, attirant leur attention sur quelque chose de terrible dans la pièce même, avec eux. En l'absence de toute lumière, il était clair qu'une faible phosphorescence avait commencé de contaminer l'habitation entière. Elle étincelait sur le bois nu du plancher et le bout d'un tapis en peau de bête, brillait dans les franges des rideaux des fenêtres à petits carreaux. Cela montait et descendait dans les linteaux, scintillait sur les étagères et la cheminée, infectait même les portes et les meubles. Chaque minute, il voyait ça forcir, et à la fin, il devint clair que toute vie saine devait quitter la maison. Ami leur désigna la porte du fond, puis les conduisit sur le chemin des champs du haut. Ils marchèrent en trébuchant comme dans un rêve, n'osant même pas regarder en arrière jusqu'à ce qu'ils fussent sur le plateau. Encore une chance qu'il y eût ce chemin, parce qu'ils n'auraient pu s'enfuir par devant, près du puits. C'était assez d'avoir allongé la grange et les cabanes luminescentes, et ces arbres fruitiers brillants avec leurs contours ratatinés et monstrueux. Mais grâce au ciel, les branches ne faisaient que se hérisser vers le haut. La lune disparut derrière de lourds nuages noirs, tandis qu'ils traversaient le rustique pont sur le Chapman's Brook, et c'est en tâtonnant à l'aveugle que d'ici ils rejoignirent l'espace ouvert. Quand ils se retournèrent vers la vallée, loin de la ferme des Gardner, la vue au fond était effrayante. Toute la ferme brillait de ces hideux spectres de couleurs inconnues. Les arbres, les bâtiments et même les herbes et les prés qui n'avaient pas été réduits encore à ce gris cassant l'étal. Les branches étaient toutes attirées vers le haut, dressées comme la langue d'immondes flammes, et des coulées flamboyantes du même feu monstrueux rampaient désormais sur les toits de la maison, de la grange et des cabanes. C'était une scène digne d'une vision de Fuseli, et partout autour régnait cette débauche de luminosité amorphe, cet arc-en-ciel de poison secret, étranger et sans dimension venant du puits, bouillonnant, flairant, lapant, attrapant, scintillant, forçant et boursouflant malignement dans son chromatisme cosmique inconnaissable. Alors, sans transition, la chose hideuse surgit verticalement vers le ciel comme une fusée ou un météore, sans sillage derrière elle, disparaissant à travers un trou rond curieusement régulier dans les nuages, avant qu'aucun des hommes n'ait pu sursauter ou crier. Aucun des témoins pour jamais oublier ce qu'ils avaient vu, et Ami contemplait ébahi la constellation du Cygne, Deneb scintillante au-dessus des autres, là où la couleur inconnue s'était dissoute dans la voie lactée. Mais c'est la terre qui rappela aussitôt son regard, à cause d'un craquement dans la vallée. C'était juste ça, juste du bois qui se déchire et qui casse, et pas une explosion, comme le prétendirent plusieurs des autres témoins. Le résultat cependant fut le même, puisque dans un seul instant effréné, kaléidoscopique, surgit de la ferme maudite et condamnée un cataclysme éruptif éblouissant d'étincelles d'une couleur et nuance surnaturelles. Brouillant le regard des rares qui le virent, et en voyant au zénith un bombardement nuageux de fragments de telles fantastiques couleurs, que notre univers se devait de les renier. Se repliant rapidement dans une seule vapeur, il suivait la grande chose morbide qui avait disparu, et en une autre seconde, ils disparurent aussi. Derrière, au-dessous, il n'y avait plus qu'une obscurité dans laquelle eux n'auraient pas osé se risquer, et levait un vent qui sembla tout balayer de noires rafales gelées surgies de l'espace interstellaire. Cela mugissait et hurlait, et fouetta les champs et les bois distordus dans leur folle frénésie cosmique, jusqu'à ce que les témoins tremblants réalisent qu'il ne servait à rien d'attendre la lune pour savoir ce qui restait là-dessous de la ferme de Nahum. Trop terrorisés pour risquer des théories, les sept hommes secoués se dirigèrent vers Arkham par la route du nord. Ami était le plus atteint de tous et les supplia d'entrer dans sa propre cuisine au lieu de repartir tout de suite pour la ville. Il ne souhaitait pas traverser le reste de la nuit dans les bois tremblants de vent, tout seul dans sa maison au bord de la route principale. Parce qu'il avait subi un choc supplémentaire, qui fut épargné aux autres, qui le marqua pour toujours d'une peur maussade, dont il n'osa jamais faire part pendant les années à venir. Comme ses compagnons regardaient fermement droit devant eux pour escalader la colline sous la tempête pour rejoindre la route, Ami un instant s'était retourné pour un dernier regard sur cette noire vallée de désolation où son ami infortuné avait trouvé son dernier abri. Et depuis ce lieu dévasté et lointain, il avait vu quelque chose s'élever lentement, uniquement pour revenir sombrer à l'endroit même d'où la grande horreur informe s'était élancée vers le ciel. C'était juste une couleur, mais pas n'importe quelle couleur de notre terre ou du ciel. Et parce qu'Ami reconnaissait cette couleur, il sut que cette ultime et faible lueur resterait tapie et menaçante dans le puits et n'a jamais trouvé le repos depuis. Ami n'avait jamais voulu retourner sur les lieux. C'est presque il y a un demi-siècle maintenant que l'horreur avait surgi, mais il n'y était plus jamais allé, et se réjouissait que le nouveau barrage l'engloutisse. Je le saurai, moi aussi, parce que je n'aime pas la façon dont changea la couleur du jour autour de la gueule du puits abandonné quand j'y passais. J'espère que les eaux seront toujours assez profondes, mais même ainsi je n'en boirai jamais. Je ne crois pas que je puisse désormais revenir dans le pays d'Arkham. Trois des hommes qui étaient venus avec Ami y retournèrent le matin suivant pour voir les ruines à la lumière du jour, mais il n'y avait pas vraiment de ruines. Seulement les briques de la cheminée, les pierres du cellier, quelques bouts de ferraille ou des déblais minéraux ici et là, et le rebord du puits néfaste. Or le cheval d'Ami qui était mort, et qu'ils tirèrent à l'écart et brûlèrent, lui rapportant le cabriolet, tout ce qui était doté de vie avait disparu. Il restait 5 hectares maudits d'un désert de poussière grise, où plus jamais rien n'a poussé depuis. Jusqu'à ce jour, cela s'étale sous le ciel comme une grande tache mangée par l'acide dans les champs et les bois, et ceux qui ont jamais osé venir le contempler, en dépit de la rumeur paysanne, l'ont appelé la lande foudroyée. Ces contes de la rumeur paysanne sont bizarres. Ils seraient encore plus bizarres si les gens de la ville et les chimistes de l'université y avaient pris assez d'intérêt pour analyser l'eau du puits abandonné ou la poussière grise que jamais aucun vent ne semble pouvoir disperser. Les botanistes, aussi, gagneraient à étudier la flore rachitique des bords de la zone, parce qu'il devrait éclairer le pays sur le fait que la lèpre s'étale peu à peu, peut-être 1 pouce par an. Des gens disent que la couleur des prés aux environs n'est pas comme elle devrait au printemps, et que des animaux sauvages laissent d'étranges empreintes dans la légère neige d'hiver. La neige, qui ne semble jamais aussi épaisse sur la lande foudroyée qu'elle l'est tout autour. Les chevaux, les quelques chevaux que nous avons gardés à l'âge des moteurs, restent nerveux dans la vallée silencieuse, et les chasseurs n'osent pas détacher leurs chiens trop près de la tache de poussière grise. Ils disent que c'est une mauvaise influence mentale aussi. Ils furent nombreux à devenir bizarres dans les années après la fin de Nahum, et toujours la force de partir leur manqua. À ce moment-là, les gens d'Esprit Saint avaient quitté la région, et ce n'était que les étrangers qui tentaient de vivre dans les vieilles fermes écroulées. et cependant nul ne put rester. Et on se demande parfois quelle perception différente des nôtres leur avait induit leur propre tradition magique. Leurs rêves, la nuit, proteste-t-il, sont vraiment horribles dans cette contrée grotesque. Et il suffit sûrement d'apercevoir ce sombre domaine pour en tirer des imaginations maladives. Aucun voyageur n'a jamais échappé au sentiment d'étrangeté dans ces ravins profonds, et les artistes tremblent quand ils peignent ces bois épais dont le mystère frappe autant l'œil que l'esprit. Je suis moi-même curieux de cette sensation que j'ai ressentie dans ma première marche solitaire avant qu'Amie me raconte son histoire. Quand vint le crépuscule, j'eus vaguement le désir que des nuages s'assemblent, tandis qu'une bizarre timidité devant le profond vide du ciel s'était emparée de mon esprit. Ne me demandez pas ma propre opinion. Je ne sais pas, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qu'Amie à qui poser des questions, parce que les gens d'Arkham se refusent à parler des jours étranges, et les trois professeurs qui avaient examiné l'aérolite et son globule de couleur sont morts. Il y avait d'autres globules, tout dépend de ça. L'un a dû se nourrir lui-même et échapper, et il y en eut probablement un pour lequel c'était trop tard. Aucun doute qu'il est encore en bas dans le puits. Je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la lumière du soleil que je vis refléter sur ce cloaque. Les gens d'ici disent que la tache s'étend d'un pouce par an. Aussi, cela continue peut-être de grandir et de se nourrir encore aujourd'hui. Mais quel que soit ce démon, on doit le retenir, ou il continuera de s'étaler, et vite. Est-ce relié aux racines de ces arbres qui griffent l'air? Un des commérages habituels d'Arkham est à propos de ces chaînes, qui brillent et s'agitent la nuit quand ils ne le devraient pas. Si on parle de matière, je suppose que la chose qu'a décrite Amie peut être appelée un gaz, mais un gaz qui n'obéirait pas aux lois qui sont celles de notre cosmos. Il ne s'agit pas du fruit d'un de ces mondes ou astres qui scintillent sur les télescopes et les clichés photographiques de nos observatoires. Ce n'est pas l'haleine des cieux dont les astronomes mesurent les mouvements ou les dimensions, ou qu'ils considèrent trop vaste pour le faire. C'était une couleur tombée du ciel, un effrayant messager de royaumes informes dont la seule existence choque le cerveau et laisse nos yeux hébétés de la vision de noirs golfes extracosmiques. Cela m'étonnerait grandement qu'Amie m'ait menti consciemment, et je ne pense pas que son histoire soit cette lubie ou folie dont les gens de la ville m'avaient prévenu. Quelque chose de terrible s'est produit dans les vallées et les collines à cause de ce météore, et quelque chose de terrible, même si je ne sais pas dans quelle proportion, demeure là encore. Je serai heureux de voir l'eau monter, et j'espère que rien n'arrivera à Ami. Il en a trop vu de cette chose, et son influence est si insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais été capable de déménager et partir? Comme il se rappelle clairement des derniers mots de Nahum, « Ça peut pas partir, ça te tire. Tu sais que quelque chose arrive, mais ça te sert à rien. » Amie est un tel bon vieil homme. Quand l'équipe du barrage sera sur place, je devrais prévenir le chef de chantier de veiller sérieusement sur lui. Je détesterais penser à lui alors que la monstruosité grise, difforme, cassante continue de plus en plus à troubler mon sommeil.